At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only 10 bucks every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
Section 4 de L'Art de lire par Émile Faguet. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Johan. Chapitre 4. Les pièces de théâtre. Les poètes dramatiques sont-ils faits pour être lus, autant que pour être entendus? Je le crois. S'il est très vrai, comme on disait autrefois, qu'une bonne comédie ne se peut juger qu'aux chandelles, il n'est pas moins véritable qu'il y a comme un jugement d'appel à porter sur elle et qui ne se peut porter qu'à la lecture. C'est de l'éclat, c'est du mouvement aussi, de la pièce de théâtre qu'on juge à la représentation. Mais à la lecture, c'est de sa solidité. C'est par la lecture d'une pièce qu'on échappe au prestige de la représentation. C'est en lisant que l'on n'est plus dupe du jeu des acteurs, de l'énergie de leurs déclamations et de la sorte d'empire et de possession qu'ils exercent sur nous. Surtout, c'est en lisant qu'on peut relire, et ce n'est qu'en relisant qu'on peut bien juger, non seulement du style, mais de la composition, de la disposition des parties et du fond même. J'entends de l'impression totale que l'auteur a voulu produire sur nous, et de la question s'il l'a produite en effet ou non, ou seulement à demi. C'est à la lecture que l'on ne peut plus prendre la fausse monnaie pour la bonne, et des sonorités plus ou moins savantes pour une idée ou un sentiment. Certains poètes sont sujets, dans le dramatique, à de longues suites de vers pompeux qui semblent fort élevés et remplis de grands sentiments. Le peuple écoute, avidement, les yeux élevés et la bouche ouverte, croit que cela lui plaît et, à mesure qu'il y comprend moins, l'admire davantage. Il n'a pas le temps de respirer. Il a à peine celui de se récrier et d'applaudir. J'ai cru autrefois, et dans ma première jeunesse, que ces endroits étaient clairs et intelligibles pour les acteurs, pour le parterre et l'amphithéâtre, que les auteurs s'entendaient eux-mêmes et qu'avec toute l'attention que je donnais à leurs récits, j'avais tort de n'y rien entendre. Je me suis détrompé. Soyez sûr que la Bruyère s'est détrompé, surtout en lisant. Beaucoup de pièces réussissent pleinement au théâtre. L'impression est l'écueil. Volontiers, je distribuerais les pièces de théâtre en 4 classes. Celles qui sont meilleures à la lecture qu'à la représentation. Celles qui sont aussi bonnes au cabinet qu'au théâtre. Celles qui sont moins bonnes imprimées qu'entendues. Et celles qui ne valent pas même la peine qu'on les imprime. Et les premières sont celles qui sont supérieures au talent des acteurs et que, par conséquent, les acteurs déparent et dégradent. Tous les grands chefs-d'œuvre classiques sont dans cette classe. Et les secondes sont d'une bonne moyenne ou un peu au-dessus de la moyenne. Et c'est un éloge à faire d'une pièce que de dire qu'elle peut être lue. Et les troisièmes sont celles, si nombreuses, qui sont au-dessous du talent des acteurs et que les acteurs relèvent. Et les quatrièmes sont celles que les acteurs font, dont les véritables auteurs sont les comédiens. Et elles sont les plus nombreuses de toutes. Tout auteur qui écrit une pièce en vue d'une étoile, en vue de tel ou tel acteur ou de telle ou telle actrice, n'écrit point pour le lecteur, se résigne à n'être pas lu et condamne en vérité sa pièce comme œuvre d'art. Tant il y a qu'il existe des pièces qui sont très bien faites pour être lues et même relues, ce sont les plus profondes et les plus subtiles. Et les noms de Racine et de Marivaux, plus encore que ceux de Corneille et de Molière, viennent à l'esprit, comme aussi ceux de Sophocle et de Terence. Il faut donc lire les bons ouvrages dramatiques. Mais ici encore, il y a une manière particulière de lire, et tout à fait particulière. Pour pouvoir lire une pièce, il faut avoir été assez souvent au théâtre, car il faut, en lisant une pièce, la voir des yeux de l'imagination, telle qu'on la verrait sur un théâtre. Cela est indispensable. Comme le véritable auteur dramatique écrit sa pièce en la voyant jouer, en voyant d'avance les acteurs qui entrent et qui sortent, qui se groupent et qui ont, en s'adressant les uns aux autres, telle ou telle attitude, et ne peut faire bien qu'à ce prix, tout de même, le lecteur doit voir, comme si elle était représentée, la pièce qu'il lit, et pour ainsi dire, presque littéralement, entendre les couplets et les répliques. Pourvu que l'on ait été quelquefois au théâtre, on s'habitue vite à lire ainsi, et, si l'on s'y habitue, on arrive assez vite aussi à ne pouvoir plus lire autrement. Rien du reste n'est plus agréable, et ce spectacle dans un fauteuil n'a d'autre inconvénient que d'affaiblir un peu en nous le désir de voir jouer des pièces dans un théâtre surchauffé, trop odorant et incommode. On arrive par cette méthode, et c'est un petit excès, à voir à travers le couplet d'un acteur, surtout la figure de celui qui ne parle pas, et à qui le couplet est adressé. Et c'est surtout Suréna qu'on suit des yeux, pendant que Pompée a la parole, et la figure d'Orgon que l'on compose et que l'on contemple en la composant, quand Dorine l'oraille, ou quand Cléonte le chapitre. Cet excès n'a rien de très dangereux, puisqu'on peut, et c'est le grand avantage du spectacle, dans un fauteuil, puisqu'on peut relire. Cette méthode est tout à fait indispensable pour ce qui est du théâtre antique. Sans pousser cette sollicitude jusqu'à une sorte de manie, il ne faut jamais oublier en effet que le théâtre antique est sculptural, que les personnages y forment des groupes harmonieux faits pour satisfaire les yeux amoureux de la beauté des lignes, autant que l'esprit amoureux de la beauté des pensées, que les Grecs ne cessent jamais d'être artistes, et qu'il faut nous faire artistes nous-mêmes pour goûter leur théâtre, sinon autant qu'ils le goûtaient, du moins de la manière, d'une des manières, et importantes, dont ils le goûtaient. Ne doutez point que l'introduction du troisième personnage sur la scène à partir de Sophocle ne leur ait été, en partie, du moins, inspirée par un souci de groupement artistique, et que la règle inverse, ne quarta loqui persona laboret, il ne faut pas qu'un quatrième personnage se mêle au dialogue, ne leur ait été inspirée par la même considération. Remarquez que, dans la comédie, qui n'a pas ou qui n'est pas tenu d'avoir les mêmes préoccupations artistiques, le même idéal sculptural, il est assez rare qu'un groupe de trois personnages occupant le théâtre en même temps soit présent à nos yeux. Il faut donc, en lisant Sophocle et Euripide, celui-là surtout, restituer et tenir sous notre vue le groupement des personnages aménagés pour produire une émotion esthétique. Relisez surtout à ce point de vue Antigone, Œdipe roi et Œdipe à Colonne. Quelquefois même le théâtre français a quelque chose de cela, non point ou presque jamais dans Racine, mais dans Corneille. Auguste, Maxime et Cinna forment un groupe. Le roi, dont Diègue et Chimène forment un groupe. Le vieil Horace intervenant, acte 2, scène 7, entre Horace, Curias, Sabine et Camille, pour dire « Qu'est ceci, mes enfants, écoutez tous vos flammes », forme un groupe et d'une très grande beauté. On pourrait multiplier ces exemples. C'est considérer la tragédie comme un opéra. La tragédie grecque est un opéra. La tragédie française n'en est pas un, mais parce qu'elle ne laisse pas d'être inspirée de la tragédie grecque, et surtout parce qu'elle a en elle l'esprit même de la tragédie, il lui arrive, du moins par le souci des groupements à la fois savants et naturels, aussi par les morceaux lyriques qu'elle admet, d'avoir avec l'opéra des analogies qui ne sont pas douteuses et qui sont très loin d'être une dégradation ou de marquer une déchéance. En tout cas, lorsqu'on lit une tragédie ou une comédie, il faut s'habituer à la voir. Il faut faire grande attention aux entrées et aux sorties des acteurs, à leurs mouvements, indiqués quelquefois par le texte, à l'attitude que ce qu'ils disent suppose qu'ils doivent avoir, au jeu de physionomie que leurs paroles permettent d'imaginer. Brunetière faisait remarquer que le début de Phèdre est très précisément un tableau, toutes les paroles de Phèdre étant des descriptions de sa personne, de ses attitudes et de ses gestes. L'auteur, en effet, en pleine possession non seulement de son génie, mais de son expérience théâtrale, aurait voulu forcer l'actrice, même de trois siècles après lui, à jouer comme il l'entendait, et non pas à son gré, à elle, qu'il n'aurait pas écrit autrement. Il semble avoir dicté la mimique, mot à mot, et c'est-à-dire geste par geste. N'allons pas plus avant, demeurons, chère Œnone. Phèdre n'a fait que quelques pas sur le théâtre et s'arrête, fatigué, presque épuisé. L'arrêt doit être brusque, une des mains de la reine cramponnée au bras de sa nourrice. Je ne me soutiens plus, ma force m'abandonne. Toute une attitude, lassée, déprimé, une sorte d'écroulement du corps. Mes yeux sont éblouis du jour que je revois. Évidemment, une main s'élève pour protéger les yeux que la lumière du soleil blesse et meurtrit. Et mes genoux tremblants se dérobent sous moi. D'une démarche chancelante, elle cherche un siège que, nécessairement, d'une main, la nourrice approche d'elle, tandis que de l'autre, elle continue de la soutenir. Tout est réglé dans le plus petit détail par le texte même. Phèdre s'assied avec un « hélas » qui n'est que le « ha » d'accablement que nous poussons en nous asseyant ou en nous couchant après une grande fatigue. Que ces vains ornements, que ces voiles me pèsent, quelle importune main, en formant tous ces nœuds, a pris soin sur mon front d'assembler mes cheveux. La main glisse sur le péplum, esquisse le geste de le rejeter pendant que les épaules frémissent, puis remonte vers le front et esquisse le geste de repousser les cheveux sur les épaules, puis, fatiguée de l'effort, retombe et traîne pendant que Phèdre dit d'une voix qui languit « Tout m'afflige et me suit et conspire à me nuire ». Plus loin, après Quenon, prosterné devant Phèdre et embrassant ses genoux, l'a longtemps supplié de lui révéler son fatal secret, « Phèdre, tu le veux, lève-toi ». Ce mot indique tout un jeu de scène, coupe nettement le dialogue, sépare tout ce qui suit de tout ce qui précède, prépare l'attention du spectateur pour la révélation qui enfin va se produire, dessine aux yeux Phèdre encore assise et Œnon debout, attentive et anxieuse. Mais pourquoi faut-il qu'Œnon se lève? Pour que Phèdre se lève elle-même quelques instants après. Car, pour la liberté des gestes, dans le grand récit que Phèdre doit faire tout à l'heure, à partir de « Mon mal vient de plus loin », il convient qu'elle soit debout. Or, elle n'aurait aucune raison de se lever si Œnon était assise. Et elle en a une grande raison si Œnon est debout. Parce qu'à une personne qui est debout, on parle de plus près, plus directement, plus intimement, si l'on est debout soi-même. Phèdre se lèvera donc tout à l'heure, et c'est pour qu'elle se lève avec vraisemblance que Racine fait lever Œnon. Ce qu'il est naturel, du reste, que Phèdre lui commande, puisque Œnon, vieille femme, est à genoux, inclinée et dans une position incommode et fatigante. Mais à quel moment Phèdre elle-même se lèvera-t-elle? Ce n'est pas indiqué par le texte. Nous pouvons la voir se lever, soit quand elle dit « Tu vas ouïr le comble des horreurs », soit quand elle dit « C'est toi qui l'as nommé », soit quand elle dit « Mon mal vient de plus loin ». Dans le premier cas, au moment où la confidence commence, il est naturel qu'instinctivement elle veuille se rapprocher de la personne à qui elle l'a fait, et que, puisque cette personne est debout, elle se lève elle-même. Dans le second cas, même raison, avec cette particularité que Œnon ayant nommé Hippolyte, ce nom réveille dans l'esprit de Phèdre l'idée de la nécessité de parler à Œnon confidentiellement et de très près. Dans le troisième cas, la confidence est faite par ce mot même, « c'est toi qui l'as nommé ». Il reste à la donner dans tout son détail. Ce détail même étant honteux, il est naturel que Phèdre, qui en prévoit toutes les hontes, se rapproche de sa confidente et pour cela se lève. Pour moi, je vois Phèdre se lever à « tu vas ouïr ». Mais il vous est loisible de placer ce mouvement à l'un ou à l'autre des trois endroits que j'ai indiqués. À tout autre, je ne serai pas de votre avis. Ce que j'en dis, du reste, n'est que pour insister sur l'avantage de cette méthode qui consiste à se représenter les mouvements et les attitudes des acteurs et reconstituer l'action. On ne doit pas lire un drame autrement. Il me semble qu'en vérité, on ne le peut pas. J'ai vu représenter le commencement d'Athalie de la façon suivante. Abner apparaît à gauche. Joad apparaît à droite. Reconnaît de loin Abner, lui fait un geste qui veut dire « Ah, c'est vous, je suis heureux de vous voir ici ». Abner lui répond « Oui, je viens dans son temple adorer l'Éternel ». C'est assez théâtral, sans doute, car, à montrer les deux personnages comme continuant une conversation commencée, on est forcé de les faire apparaître sortant de la coulisse ensemble, côte à côte, pour ainsi dire presque bras-dessus, bras-dessous, et cela est un peu bourgeois. Donc, il faut faire comme je viens de dire qu'on fait. Peut-être. mais il me semble que jamais la lecture ne donnerait l'idée de cette façon de présenter les choses. Oui est une réponse à une parole, et non pas à un geste. Pour qu'Abner dise « oui », il faut que Joad ait parlé. Joad, traversant le théâtre pour venir au-devant d'Abner, doit parler, doit avoir parlé pour qu'on lui réponde « oui ». Et ne provoquant ce « oui » que par un geste, est un peu étrange. Il semble avoir une extinction de voix, ou semble être étourdi par la surprise. Il n'y a vraiment pas lieu. Non, c'est bien une conversation commencée qui continue, et c'est ainsi que l'a voulu Racine. Et donc, il faut présenter Joad et Abner plus bourgeoisement, entrant par le fond, de front, et conversant déjà ensemble. Voyez ainsi. De même, quand Oreste et Pylade entrent en scène, Oreste disant « Oui, puisque je retrouve un ami si fidèle. » Point de jeu de scène, ils entrent et il n'y a rien d'autre. Au contraire, quand Agamemnon réveille Arcas et lui dit « Oui, c'est Agamemnon, c'est ton roi qui t'éveille. » Il y a jeu de scène évident, il n'y a point conversation commencée qui continue. Arcas dort, Agamemnon entre, lui touche le bras. Arcas se réveille et manifeste son étonnement de voir Agamemnon à son chevet, ce qu'il est tout naturel qu'il fasse sans parler encore. Et il va parler, mais Agamemnon, très impatient, fiévreux, comme la suite de la scène le montre, lui dit « Oui, c'est moi, j'ai à te parler ». Il le lui dit plus solennellement, mais c'est le ton de la tragédie qui le veut ainsi. Ici, je crois qu'il y a jeu de scène. Voyez de la sorte. En tout cas, voyez. Habituez-vous à voir. Une des choses qui distinguent une pièce bien faite d'une pièce mal faite, une pièce vivante d'une pièce sans vie, c'est que la première, on la voit, et que la seconde, on ne la voit pas. De même que le bon dramatiste a écrit sa pièce en la voyant, de même le bon lecteur lit la pièce en la dressant devant ses yeux. De quelque art du reste qu'il s'agisse, le secret du dilettante, c'est d'attraper l'état d'esprit où l'artiste a été lui-même en composant son œuvre et de savoir plus ou moins pleinement le garder et s'y maintenir. « Je ne trouve pas cette femme si belle, » disait un Athénien devant une statue de Phidias. « C'est que tu ne la vois pas avec mes yeux, » lui dit un autre. « Es-tu donc l'auteur ?»« Plût à Dieu, mais j'ai quelquefois comme une illusion que je le suis. » C'est une grande jouissance encore en lisant les auteurs dramatiques, et qu'on éprouve plus en lisant les auteurs dramatiques que tous les autres, que d'observer les différences de style entre les divers personnages. Les auteurs dramatiques, un peu aussi les romanciers, mais moins, ont cela de particulier qu'ils ont plusieurs styles, et qu'il faut qu'ils en aient plusieurs, faisant parler les personnages les plus différents, et devant avoir autant de styles qu'ils ont de personnages. On reprochait à un auteur dramatique de ne pas avoir de style. Il répondit spirituellement « Ne savez-vous pas qu'un auteur dramatique ne doit pas avoir de style ?» Comme presque toutes les réponses spirituelles, celle-ci n'est juste que prise d'un certain biais. La vérité est qu'un auteur dramatique doit avoir un style, plus cent autres qui ne sont pas le sien. Il doit avoir un style à lui et qui se reconnaîtra toujours quand il fait parler le personnage qui le représente. Ou toutes les fois, dans quelque rôle que ce soit, qu'il fait dire à quelqu'un ce qu'il dirait en effet lui-même. C'est ici qu'est son style à lui. Il doit avoir cent autres styles différents et dont il n'est pas responsable, ou plutôt pour lesquels il n'est responsable que de leur vérité relative et circonstancielle à l'usage des différents personnages qu'il fait parler. Bourgeois, homme du peuple, paysan, valet, marquis, hypocrite de religion, etc. Il y a plus. Le langage change, non seulement selon les conditions, mais selon les caractères, ou plutôt le langage change selon les conditions et le style change selon les caractères. L'avare ne parle pas comme le prodigue, le timide comme le fanfaron, le don Juan comme le craintif auprès des femmes, etc. Non seulement ils ne disent pas les mêmes choses, mais ils n'ont pas le même tour de style. Un auteur disait « Mon Guillaume le taciturne m'embarrasse, car de quel style le faire parler ? Il ne suffit pas de lui donner un style laconique, il faudrait qu'il ne dise rien, ce n'est pas un personnage de théâtre. » il est plus difficile de trouver le style d'un caractère que d'inventer le caractère lui-même. Bellac, du « monde où l'on s'ennuie », n'était pas difficile à inventer puisqu'il est toujours dans la réalité et qu'il suffisait de s'en aviser. Ce qui était malaisé, c'était de lui trouver son style, et c'est à quoi Pailleron a admirablement réussi. Léon Tolstoï fait remarquer, et c'est pour lui un critérium, que Shakespeare est un bien mauvais poète dramatique puisqu'il n'a qu'un style, oratoire, poétique, lyrique, pour tous ses personnages. De conclusion que Shakespeare n'est pas à proprement parler un poète dramatique. Le critérium, quoique insuffisant, s'il est unique, est très juste. Le poète dramatique se révèle vrai créateur d'hommes par plusieurs choses, en particulier par ceci qu'il a autant de style qu'il a de personnages. La critique à l'égard de Shakespeare est assez injuste, car précisément Shakespeare fait parler de la façon la plus différente du monde Falstaff et Othello, Iago et Hamlet, les joyeuses commères et Béatrix, la nourrice de Juliette et Juliette elle-même. Et enfin, il reste quelque chose de la critique parce que, à la vérité, Shakespeare a été trop grand poète, et particulièrement trop grand poète lyrique, pour ne pas, un peu, faire parler ses principaux personnages d'une manière qui ne les distingue pas suffisamment les uns des autres. Vous observerez que nos tragiques du XVIe siècle font parler leurs personnages tous de la même façon, et qu'il en résulte une monotonie cruelle, que Corneille est excellent pour donner à Félix, à Stratonis, à Polyeucte et à Sévère, des styles qu'on ne peut pas confondre. Que Racine, quoiqu'il y faille de meilleurs yeux, par des nuances au moins très sensibles, sait fort bien distinguer le langage de Néron, de celui de Narcisse, et aussi de celui d'Agrippine. Mais le maître en ce genre, maître incomparable, du moins à considérer tous les auteurs français, et pour les autres je sens mon incompétence, c'est Molière, qui trace un caractère par le style même du personnage dès les premières répliques qu'il prononce, qui met des nuances de style sensibles entre des personnages à peu près semblables, et par exemple entre Philaminte, Armande et Bélise, peut-être, et je le crois, entre Mademoiselle Cathos et Mademoiselle Madelon, qui indique par des styles différents les différents âges même d'un même personnage, car on sait parfaitement que Don Juan n'a pas le même âge au cinquième acte qu'au premier, malgré l'apparente observation de la règle des 24 heures, et qu'il change de caractère du commencement à la fin de la pièce. Or, observez le style, et vous verrez que de ces différences dans le caractère et de ces différences d'âge, le style même vous avertit. Il est à remarquer même que l'auteur dramatique varie naturellement son style selon les nuances de caractère d'un même personnage. On sait assez qu'Orgon, et c'est une des grandes beautés de l'ouvrage, a deux caractères, selon, pour ainsi dire, qu'il est tourné du côté de Tartuffe ou tourné du côté de sa famille, autoritaire dans sa maison, docile au dernier degré devant le pauvre homme. Or, cela est marqué par des différences de style qui sont extrêmes. Quand Orgon parle à sa fille, c'est de ce style tranchant et acerbe. « Ah, voilà justement de nos religieuses, lorsqu'un père combat leurs flammes amoureuses. Debout, plus votre cœur répugne à l'accepter, plus ce sera pour vous matière à mériter. Mortifiez vos sens avec ce mariage, et ne me rompez pas la tête davantage. » Et quand c'est l'élève de Tartuffe qui parle, même non plus devant lui, mais répétant une leçon qu'autrefois il a apprise de lui, voyez le style sinueux, tortueux, serpentin, voyez la démarche de Tartuffe dans le style d'Orgon. Ce fut pour un motif de cas de conscience. J'allai droit à mon traître en faire confidence, et son raisonnement me vint persuader de lui donner plutôt la cassette à garder, afin que pour nier en cas de quelque enquête, j'eusse d'un faux fuyant la faveur toute prête, par où ma conscience eut pleine sûreté à faire des serments contre la vérité. De même, Elmire, qui a un style si court, si direct et si franc dans la scène 3 du troisième acte, parce qu'elle n'est nullement une coquette, quoique d'aucun en ait cru, change de style, non seulement en ce sens qu'elle parle un tout autre langage, comme le lui fait remarquer Tartuffe, « Madame, vous parliez tantôt d'un autre style », mais aussi dans le sens grammatical du mot, quand elle a pris un caractère d'emprunt, et le style alambiqué, torturé, de la coquette, ou bien plutôt de la femme qui ne l'est point et qui s'efforce péniblement de l'être, lui vient aux lèvres et marque tout justement ce changement momentané de caractère, et avertirait et mettrait en défiance le convoiteux s'il n'était étourdi par sa convoitise. Et lorsque j'ai voulu moi-même vous forcer à refuser l'hymen qu'on venait d'annoncer, qu'est-ce que cette instance a dû vous faire entendre que l'intérêt qu'en vous on s'avise de prendre, et l'ennui qu'on aurait que ce nœud qu'on résout vint au moins partager un cœur que l'on veut tout. Un auteur dramatique ne doit se servir de son style à lui et ne s'en sert en effet, s'il a tout son art, que quand il parle en son nom, et je veux dire quand il fait parler le personnage qui le représente ou le personnage qui lui est particulièrement sympathique. Il y a un style de Corneille, un style de Racine, un style de Molière. Le style de Corneille est celui des Don Diègue, des Rodrigues et des Horaces. Le style de Racine est le style de ses héroïnes, et l'on voit très bien que le style des hommes, chez lui, si savant qu'il soit, est plus tendu, plus voulu, j'hésite à dire plus artificiel, et semble lui avoir coûté plus de peine. Le style de Molière est celui de ses raisonneurs et de ses railleurs, c'est celui de Cléante et d'Henriette, un peu et non pas tout à fait celui de Chrysale. C'est là qu'il faut le chercher, et précisément c'est en le cherchant là qu'on saisira les différences entre le style personnel et le style qu'il invente et qu'il crée à l'usage des personnages étrangers à lui et pour les peindre. Ces études sont très intéressantes. Elles ne peuvent se faire un peu sérieusement qu'à la lecture. Cela même prouve qu'il faut lire les pièces de théâtre. Les pièces de théâtre se relevant au-dessus ou s'abaissant au-dessous de la représentation à la lecture que l'on en fait. Je ne dis pas pour cela que la lecture soit le vrai tribunal, ce qu'on pourrait toujours me contester et ce que rien ne me permet d'affirmer. Je dis seulement qu'il y en a deux et que la lecture en est un où il est agréable de siéger et autant ou moins que dans l'autre. Un des plaisirs encore de la lecture des poètes dramatiques est de distinguer ce qui, comme pensée, est d'eux et ce qui est de leur personnage. Cette recherche est d'autant plus engageante, d'autant plus passionnante, que l'on sent bien qu'elle n'aboutira jamais complètement, qu'elle n'aboutira jamais qu'à peu près. Jamais l'auteur n'est responsable totalement de l'un quelconque de ses personnages. Jamais ce n'est absolument lui-même qu'il peint dans un de ses héros. Jamais ce n'est absolument lui qui parle par la bouche de l'un d'eux. Il ne faut pas dire que Chrysale soit Molière, ni même que Gorgibus soit Molière, ni que le Cléante de Tartuffe soit Molière. Et ici, j'ai peur que, si on le croyait, on ne se trompât plus qu'ailleurs. Ni même que le Clitandre des femmes savantes soit Molière encore, quoique ici, j'estime qu'on serait plus près de la vérité. Cependant, nous avons quelques moyens d'approximation pour ainsi dire. Le personnage, par exemple, qui raille le personnage ridicule, représente approximativement l'auteur, et il n'y a pas à douter beaucoup que ce que dit la Dorine de Tartuffe ne soit ce que Molière pense lui-même. Le personnage, dans les pièces à thèse, qui raisonne, qui fait une dissertation, qui exprime des idées générales, et à qui, cela est important, l'adversaire n'a rien à répondre, peut être considéré comme exprimant à très peu près la pensée de l'auteur. Thouvenin dans Denise, et bien évidemment Dumas fils lui-même. Remarquez bien ce procédé de Molière. « Monsieur mon cher beau-frère, avez-vous tout dit ?»« Oui, je suis votre valet. » Et Orgon s'en va. Cela veut dire « Cléante a raison, non seulement parce qu'il raisonne bien, mais parce qu'Orgon ne trouve pas un mot à lui répliquer. Et donc Orgon n'obéit qu'à sa passion. » Et Cléante obéit à son jugement. Molière use assez souvent de ce procédé qui est un avertissement aux spectateurs et aux lecteurs. Arnolphe, prêchez, ratiocinez, jusqu'à la Pentecôte. Vous serez ébahis quand vous serez au bout, que vous ne m'aurez rien persuadé du tout. Je ne vous dis plus mot. De même, et d'une façon prolongée, dans la critique de l'école des femmes, tu ferais mieux de te taire. Je ne veux pas seulement t'écouter. La 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 la, la la la. Etc. Toutes les fois que l'auteur montre le personnage B, réduit à quia, c'est qu'il déclare et qu'il proclame que celui qui a parlé par la bouche de A, et l'auteur lui-même. C'est pour cela que, de son temps, on a accusé Molière de donner raison à l'athéisme de Don Juan. Et pourquoi donc ? Mais parce qu'il a montré, comme représentant de la cause de Dieu, un imbécile, et particulièrement parce que, tout en raisonnant, Sganarelle tombe par terre, et que Don Juan lui dit « Voilà ton raisonnement qui se casse le nez ». Et certainement les apparences ici sont contre Molière. De même, on l'a accusé de louer, d'autoriser et de recommander la plus infâme complaisance chez les maris, parce que le personnage raisonnable de l'école des femmes, qui, à un certain moment, vante à Arnolphe les délices de l'état de mari trompé. On n'a pas compris, ou point voulu comprendre, qu'au premier acte, Chrysalde est en effet l'homme raisonnable, et qui ne parle que raison, et qu'au quatrième, il est un bourgeois raillard qui, pour taquiner Arnolphe et le mettre en ébullition, soutient devant lui le paradoxe le plus propre à l'exaspérer. Et sans doute, il y a là, de la part de Molière, une légère faute au point de vue de la thèse à plaider, puisqu'il la compromet. Mais l'erreur est plus grande encore de la part de ceux qui n'ont pas entendu qu'un homme de raison peut devenir à un moment donné un homme d'esprit et qui s'amuse. En résumé, sauf légères exceptions circonstancielles, on démêlera dans l'ouvrage d'un auteur dramatique ce qu'il pense lui-même en voyant à qui, dans la discussion, il donne le raisonnement faible, comme disaient les sophistes. À qui, surtout, il donne le raisonnement à quoi l'on ne répond rien, encore qu'à tout raisonnement on puisse répondre. Ceci même est la marque, puisqu'à tout raisonnement on n'en peut opposer un autre que l'auteur, qui assurément pouvait faire répliquer Paul, lui fasse garder le silence. C'est le signe qu'il veut que ce soit Pierre qui soit hautement désigné par lui comme ayant raison. Et enfin, on distingue la pensée personnelle de l'auteur dramatique surtout à l'accent avec lequel un personnage parle. C'est ce qui trompe le moins. Personne ne doute, à la façon dont Suréna parle, que Corneille ne soit avec Suréna, et que Suréna ne jette au public la pensée même de Corneille. Personne ne doute que les Don Diègue et le vieil Horace ne soient le cœur même de Corneille. Il y a des cas plus complexes. L'accent est aussi fort, en vérité, chez Polyeucte, chez Pauline et chez Sévère. C'est qu'il arrive, et c'est cela que précisément il faut comprendre, qu'il y a pour un auteur et qu'il y a réellement plusieurs vérités. Vérité d'enthousiasme, vérité d'amour, vérité de raison, et que, par ainsi, plusieurs personnages peuvent discuter, disputer et se torturer dans le sein même de la vérité. La raison de Corneille est avec Sévère, son cœur avec Pauline, sa foi avec Polyeucte. Les meilleures parties de lui sont partout répandues dans cette pièce, et par parenthèse, c'est une des raisons pourquoi cette pièce est si admirable. Mais retenons ceci, c'est l'accent qui est révélateur de ce qu'un auteur dramatique met de lui-même dans un ouvrage dramatique. Encore que ce soit l'essentielle qualité du dramatiste de se transformer en les personnages les plus différents et de vivre en eux. Encore que le dramatiste ne soit rien s'il n'est pas objectif. Cependant, le subjectif reste, et c'est à l'accent que le subjectif se reconnaît. Quand un personnage touche au lyrisme, doutez peu que ce ne soit l'auteur qui parle. Le lyrisme n'est pas tout entier littérature personnelle, mais il y a toujours quelque littérature personnelle dans le lyrisme. On voit qu'une des plus vives jouissances de réflexion dans la lecture des poètes dramatiques est de reconnaître ce qu'ils mettent eux-mêmes dans leurs œuvres. On voit aussi que cette recherche est difficile et qu'il n'y manque pas de chance de se tromper. Ce n'est qu'une raison de plus pour la faire quand il s'agit de plaisir, et dans le petit livre que j'écris, il n'est question que de cela. Le risque de se tromper aiguise le désir de voir juste et relève le plaisir d'avoir probablement raison. Et il y a un plaisir, je ne dirais pas plus grand, mais plus piquant, à être à peu près certain qu'on a raison qu'à en être pleinement sûr. Fin de la section 4. Section 5 de L'art de lire par Émile Faguet. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Jehan. Chapitre 5. Les poètes. Les poètes proprement dits, et par là j'entends les poètes épiques, les poètes élégiaques et les poètes lyriques, doivent être lus d'une façon un peu différente, comme du reste ces poètes en prose qui sont les grands orateurs et ces autres poètes en prose qui, par le nombre de leurs phrases, sont des musiciens. Ils doivent être lus d'abord tout bas et ensuite tout haut. D'abord tout bas pour que l'on comprenne leurs pensées. Car la plupart d'entre nous, par l'effet de l'habitude, ne comprennent guère qu'à moitié ce qu'ils lisent tout haut. Ensuite, à haute voix, pour que l'oreille se rende compte du nombre et de l'harmonie, sans que, cette fois, l'esprit laisse échapper le sens, puisqu'il s'en sera préalablement rempli. La lecture à haute voix, ou plutôt à demi-voix, car il ne s'agit pas de déclamer, mais simplement d'appeler l'oreille à son secours pour se rendre compte, devra être dirigée de la façon suivante. Elle repose avant tout sur la ponctuation. Il faut tenir compte, ce que l'on fait si peu en lisant tout bas, des points, des virgules et des points et virgules. Et ce précepte est aussi essentiel qu'il est élémentaire, et aussi rarement suivi qu'il est essentiel. La ponctuation n'est pas moins importante pour le nombre que pour le sens, et c'est pourquoi une faute de ponctuation met les auteurs, et particulièrement les poètes, au désespoir. Rappelons l'exemple classique à cet égard. Musset avait écrit, dans Carmosine, « Depuis le jour où le voyant vainqueur, d'être amoureuse, amour, tu m'as forcée, fût-ce un instant, je n'ai pas eu le cœur de lui montrer ma craintive pensée, dont je me sens, à tel point oppressée, mourant ainsi que la mort me fait peur. » Le typographe avait imprimé, bien naturellement, « De lui montrer ma craintive pensée, virgule, dont je me sens à tel point oppressé, point, mourant ainsi, virgule, que la mort me fait peur, point d'exclamation. » Musset, il le dit dans sa correspondance, fut malade de chagrin. Il y avait de quoi. Au point de vue de la correction, on lui avait fait faire une faute. « Dont je me sens à tel point oppressé, étant laissé sans complément et restant en l'air. » Mais au point de vue du nombre, la faute qu'on lui faisait commettre était encore plus grave. Car ces vers forment une strophe de 6 vers couplés, menés 2 à 2, avec, ce qui est très conforme aux lois générales du rythme, un repos assez fort après le premier distique, un repos un peu moins fort, mais un repos encore après le second distique. Depuis le jour où le voyant vainqueur, d'être amoureuse, amour, tu m'as forcé, fût-ce un instant, je n'ai pas eu le cœur de lui montrer ma craintive pensée, dont je me sens à tel point oppressé, mourant ainsi que la mort me fait peur. » Tandis qu'en ponctuant comme le typographe avait fait, même avec une syntaxe correcte, comme je vais faire, nous aurons un distique, puis 3 vers, d'une seule tenue de voix, puis un vers, isolé, 2, 3, 1, et tout rythme est détruit. « Depuis le jour où le voyant vainqueur, d'être amoureuse, amour, tu m'as forcé, fût-ce un instant, je n'ai pas eu le cœur de lui montrer ma craintive pensée dont je me sens lourdement oppressée, mourant ainsi que la mort me fait peur. » Oui, tout rythme est détruit, et l'on se trouve en présence d'une de ces dissonances, ou plutôt d'une de ces arythmies que les poètes sans doute se permettent, et même cherchent parfois, mais pour produire un effet particulier. À quoi ici on ne voit pas qu'il y ait lieu ? Il faut donc lire sur une édition bien ponctuée, il faut faire une attention scrupuleuse à la ponctuation. Ensuite, il faut faire attention au nombre et à l'harmonie, qui ne sont pas absolument la même chose. J'appelle « nombre » une phrase d'une certaine longueur qui est bien faite, dont les différentes parties sont en juste équilibre et satisfont l'oreille comme un corps aux membres proportionnés et bien attachés satisfait les yeux. Une phrase nombreuse, c'est une femme qui marche bien. J'appelle harmonieuse une phrase qui, de plus, par les sonorités ou les assourdissements des mots, par la longueur ou la vigueur des rythmes, par toutes sortes d'artifices naturels, du reste, dans la disposition des mots et des membres de phrases, représente un sentiment, peint la pensée par les sons, et la mêle ainsi plus profondément à notre sensibilité. Ce qui suit n'est pas une phrase nombreuse. Du reste, elle est à souhait, et sans affectation ni raffinement, par où elle est un vrai modèle. Vous verrez dans une seule vie toutes les extrémités des choses humaines. La félicité sans bornes, aussi bien que les misères. une longue et paisible jouissance d'une des plus nobles couronnes de l'univers, tout ce que peuvent donner de plus glorieux la naissance et la grandeur accumulée sur une seule tête, qui ensuite est exposée à tous les outrages de la fortune. La bonne cause d'abord suivie de bons succès, et, depuis, des retours soudains, des changements inouïs, la rébellion longtemps retenue, à la fin tout à fait maîtresse, nul frein à la licence, les lois abolies, la majesté violée par des attentats jusqu'alors inconnus, l'usurpation et la tyrannie sous le nom de liberté, une reine fugitive qui ne trouve aucune retraite dans trois royaumes, et à qui sa propre patrie n'est plus qu'un triste lieu d'exil, 9 voyages sur mer entrepris par une princesse malgré les tempêtes, l'océan étonné de se voir traversé tant de fois en des appareils si divers et pour des causes si différentes, un trône indignement renversé et miraculeusement rétabli. Cette période est composée de membres de phrases d'une longueur inégale, mais non pas très inégale. De membres de phrases qui vont d'une longueur de 20 syllabes environ à une longueur de 30 syllabes environ, et c'est-à-dire qui sont réglés par le rythme de l'haleine, sans s'astreindre à en remplir toujours toute la tenue, et qui ainsi se soutiennent bien les uns les autres, et satisfont le besoin qu'a l'oreille de continuité à la fois et de variété,
de rythme,
et de rythme qui ne soit pas monotone. De même, je préviens tout de suite qu'ici les membres de phrases sont plus courts, celui qui règne dans les cieux et de qui relève tous les empires, à qui seul appartient la gloire, la majesté et l'indépendance, est aussi le seul qui se glorifie de faire la loi aux rois et de leur donner quand il lui plaît de grandes et terribles leçons. Soit qu'il élève les trônes, soit qu'il les abaisse, soit qu'il communique sa puissance aux princes, soit qu'il la retire à lui-même et ne leur laisse que leur propre faiblesse, il leur apprend leurs devoirs d'une manière souveraine et digne de lui, car en leur donnant sa puissance, il leur commande d'en user, comme il fait lui-même pour le bien du monde. Il leur fait voir en la retirant que toute leur majesté est empruntée, et que pour être assis sur le trône, ils n'en sont pas moins sous sa main et sous son autorité suprême. Nous avons ici des membres de phrases presque toujours de 17, 18, 19 ou 20 syllabes, donc presque égaux, plus égaux que dans le précédent exemple. Et puisqu'en même temps ils sont plus courts, obéissant à un rythme plus marqué, la phrase est essentiellement nombreuse. Une phrase harmonieuse sera celle qui peindra quelque chose par les sons, paysage, musique de la nature, faits, sentiments, pensées. Dans le premier exemple que nous avons donné, il y avait déjà quelques traces, non plus seulement de nombre, mais d'harmonie. On peut le prendre au point de vue de l'harmonie de la façon suivante, en la scandant quelquefois, non plus seulement en ayant égard à la reprise de l'haleine, mais à l'accent rythmique que doit mettre l'orateur sur certains mots, et qui les isole, eux, avec les quelques mots qui les précèdent, du reste du membre de phrase. Et alors, nous avons ceci. D'abord, pour peindre un règne heureux, des membres de phrases assez longs, se faisant bien équilibre les uns aux autres jusqu'à et depuis. Ensuite, pour peindre l'anarchie, un rythme relativement brisé et heurté. Des retours soudains, des changements inouïs, la rébellion retenue et à la fin tout à fait maîtresse, nul frein à la licence, les lois abolies. Enfin, pour peindre la bonasse revenue, la période tombant et se reposant sur un rythme très net, très précis, presque de versification, un vers de 9, un vers de 10, et majestueux, un trône indignement renversé et miraculeusement rétabli. Mais ici, l'harmonie expressive ne fait que se mêler un peu et de temps en temps au nombre. Voici où elle règne en maîtresse et fait la période toute sienne. Comme un aigle qu'on voit toujours, soit qu'il vole au milieu des airs, soit qu'il se pose sur le haut de quelque rocher, porté de tous côtés ses regards perçants, et tombé si sûrement sur sa proie qu'on ne peut éviter ses ongles non plus que ses yeux. Aussi vifs étaient les regards, aussi vite et impétueuse était l'attaque, aussi forte et inévitable étaient les mains du prince du Condé. Au point de vue de la tenue de l'haleine, il faut scander, je crois, comme j'ai fait. Mais au point de vue de l'harmonie expressive, il faut accentuer les mots air, rocher, perçant, proie, yeux, regard, attaque et inévitable. Et alors, nous voyons que les choses sont peintes par les mots, et c'est-à-dire ici par le rythme général, par les sonorités et par les silences. Comme rythme général, deux grandes demi-périodes, l'une largement ouverte et comme à pleines ailes, montrant l'aigle évoluant dans le ciel, puis fondant sur sa proie, l'autre plus courte, plus pressée et plus pressante, donnant cette sensation que non seulement aussi vite et aussi foudroyant, mais plus vite et plus foudroyant encore, était le vol du prince de Condé. Comme sonorité, le mot « rocher », sec et dur, où l'on voit l'aigle comme cramponné. Le mot « perçant », rappelé par le mot « yeux », qui dessine si fortement, surtout pour les contemporains de Condé, le trait essentiel de la figure du prince. Le mot « attaque », brusque et éclatant. Le mot « inévitable », qui donne l'impression d'un grand filet où le général enveloppe l'ennemi. Comme « silence », enfin. La pause de la voix après la première demi-période et après le mot « inévitable ». Tout cela est une peinture musicale. Tout cela est l'harmonie expressive. Et je n'ai pas besoin d'ajouter qu'ici, comme il doit être, le nombre et l'harmonie concourent. L'harmonie ne contrarie pas le nombre. Et au contraire, s'associe avec lui intimement et la voix s'arrête, selon le nombre, sur le mot « inévitable ». Comme, selon l'harmonie, le mot « inévitable » doit être vigoureusement accentué. Voyez encore cette phrase de Chateaubriand. « Les matelots se passionnent pour leur navire. Ils pleurent de regret en le quittant, de tendresse en le retrouvant. Ils ne peuvent rester dans leur famille. Après avoir juré 100 fois qu'ils ne s'exposeront plus à la mer, il leur est impossible de s'en passer, comme un jeune homme ne se peut arracher des bras d'une maîtresse orageuse et infidèle. » Le magnifique effet rythmique de la fin est dû au contraste entre les lignes sans rythme du commencement et le rythme imprécis et flottant, mais singulièrement séducteur, de la fin, comme un jeune homme ne se peut arracher des bras d'une maîtresse orageuse et infidèle. Voyez ceci de Renan. « Je suis né, déesse aux yeux bleus, de parents barbares, chez les cimériens bons et vertueux qui habitent au bord d'une mer sombre. Hérissé de rochers, toujours battus par les orages. On y connaît à peine le soleil. Les fleurs sont les mousses marines, les algues et les coquillages colorés qu'on trouve au fond des baies solitaires. Les nuages y paraissent sans couleur, et la joie même y est un peu triste. Mais des fontaines d'eau froide y sortent des rochers, et les yeux des jeunes filles y sont comme ces vertes fontaines où, sur des fonds d'herbes ondulées, se mire le ciel. » Je laisse de côté l'effet de peinture qui est étonnant, mais j'appelle l'attention sur l'effet rythmique. Il est dans l'opposition, légère du reste, et qu'il serait inepte de marquer comme un contraste. Mais dans l'opposition, cependant, des sons étouffés, sourds, des tons tristes, mousses marines, au fond des baies solitaires, nuages sans couleur, et des sons plus clairs, plus chantants, sans avoir rien d'éclatant, de triomphant ni de sonore, yeux de jeunes filles, verte fontaine, se mire le ciel. Il est aussi dans les membres de phrases courts, en même temps qu'ils sont sourds, des membres de phrases déprimées du commencement auxquels s'oppose le membre de phrase finale, non pas allègre, mais libre, mais libéré, s'espaçant discrètement, mais s'espaçant et prenant du chant, et qui semble comme l'expression du soulagement et de la reprise de la vie, dans un sourire. Les yeux des jeunes filles sont, verts et bleus à la fois, comme ces vertes fontaines où sur un fond d'herbes ondulées se mire le ciel. Ainsi, en lisant à haute voix, vous vous pénétrez des rythmes qui complètent le sens chez les écrivains qui savent écrire musicalement, du rythme qui est le sens lui-même en sa profondeur, du rythme qui, en quelque façon, a précédé la pensée, car il y a 3 phases. La pensée en son ensemble, en sa généralité, je suis né en Bretagne, le rythme qui chante dans l'esprit de l'auteur, qui est son émotion elle-même, et dans lequel il sent qu'il faut que sa pensée soit coulée, le détail de la pensée qui se coule en effet dans le rythme, s'y adapte, le respecte, ne le froisse pas et le remplit. du rythme enfin qui, parce qu'il est le mouvement même de l'âme de l'auteur, est ce qui, plus que tout le reste, vous met comme directement et sans intermédiaire en communication avec son âme. Ouvrez la fontaine n'importe où, aussi bien c'est ce que je viens de faire, et lisez à demi-voix. Dans un chemin montant, sablonneux, malaisé, et de tous les côtés au soleil exposé, son lourd, sourd, dur, rude, compact, sans air, car il n'y a pas de muet, sensation d'accablement, si fort chevaux tiraient un coche, vers aussi lourd, aussi rude, plus rude même, mais plus court, qui par conséquent serait plus léger s'il n'était pesant par la rudesse des sons et qui, à cause de cela, semble tronqué, semble n'avoir pas pu aller jusqu'à fin de lui-même. Femme, moine, vieillard, tout était descendu, celui-ci plus léger, du moins moins accablé. C'est que ceux-ci marchent, ou se promènent, ou s'ébrouent, et par comparaison avec le coche, sont presque allègres. Mais l'attelage suait, soufflait, était rendu. Retour des sonorités sourdes, du verre compact et serré. Une mouche survient et des chevaux s'approchent. Verre léger, rapide, presque dansant. C'est une étourdie qui entre en scène. Prétend les animer par son bourdonnement. Vif, courant, d'une seule venue, mais sourd. C'est le travail inutile, mais c'est le travail ardent, concentré, très sérieux pour elle, de la mouche qui est commencée. Pique l'un, pique l'autre, et pense à tout moment qu'elle fait aller la machine. Léger cette fois, et presque allègre, c'est la joie impertinente de la mouche, du commissaire du comité dans un cortège, qui est exprimée. S'assied sur le timon, sur le nez du cocher. Le commissaire se repose un moment en s'appuyant à un bec de gaz. Il souffle, il s'essuie le visage, il va recommencer. Le verre est à la fois stable et inquiet. Il exprime un mouvement qui reprend au moment presque où il s'arrête. Aussitôt que le char chemine et qu'elle voit les gens marcher, reprise du mouvement général, changement de rythme, elle s'en attribue uniquement la gloire. Vers ample, étoffé, qui se termine sur une sonorité éclatante, sur une fanfare. Va, viens, fait l'empresser, il semble que ce soit un sergent de bataille allant en chaque endroit faire avancer les gens et hâter la victoire. Vers vaste, développés et enveloppants, circulaires, par où l'on voit la mouche parcourant toute la périphérie du champ d'activité, toutes à tous, se multipliant, et réalisant une ubiquité inutile et orgueilleuse. Ainsi de suite. Faites ces observations, ou des observations analogues ou contraires, mais faites-en pour tirer tout le parti possible des écrivains qui savent écrire en musique. Faites-en même sur ceux qui ne le savent point. Pourquoi ? Pour constater qu'ils ne le savent point, et par là mieux apprécier ceux qui le savent. Vous observerez peut-être que Delille, qui est extrêmement estimable comme versificateur, ne peut pas se lire à haute voix. D'où vient ? De ce qu'il peint, et souvent très bien, mais ne chante pas. Il n'est pas musical, il ne peint jamais par les sons. Corneille, admirablement oratoire, est musical très rarement. Ses vers lyriques eux-mêmes ont le mouvement et merveilleux, source délicieuse, en misère féconde, mais n'ont pas l'harmonie expressive. Il lui arrive cependant, comme à tout grand poète, d'atteindre à cette partie de l'art, et il dira « Et la terre et le fleuve et leur flotte et le port sont des champs de carnage, où triomphe la mort. » Et il dira aussi, lui, sans aucun effroi, comme maître paisible, « jetait dans les sillons cette semence horrible, d'où s'élève aussitôt un escadron armé, par qui de tous côtés il se trouve enfermé. Tous n'en veulent qu'à lui, mais son âme plus fière, ne daigne contre tous s'armer que de poussière. À peine il la répand qu'une commune erreur, de tous, l'un contre l'autre, anime la fureur. Ils s'entrimolent tous au commun adversaire. Tous pensent le percer quand ils percent leurs frères. Leur sang partout regorge, et Jason, au milieu, reçoit ce sacrifice en posture d'un dieu. et de même dans Racine, mélodieux plutôt qu'harmonieux, flattant l'oreille par le nombre savamment observé et ingénieusement inventé, plutôt que peignant par les sons. Cependant, on trouve, sans bien chercher, des vers sonores, dont les sonorités ont un sens, donnant une impression de grandeur, de triomphe ou d'immense désolation. Lorsque de notre Crète il traversa les flots, digne sujet des vœux des filles de Minos, et la Crète fumant du sang du Minotaure, dans l'Orient désert, qu'elle devint mon ennui. Et si vous me dites qu'à faire ainsi, l'on finit par dénaturer le poète, l'on finit par ne plus chercher en lui que le musicien, et par ne plus le trouver poète quand il ne fait plus de la musique. Je vous répondrai que, quand on commence à sentir cela, on doit faire taire l'orchestre, comme on éteint une lampe, qu'on doit cesser de lire tout haut et recommencer à lire tout bas, et que, de même que pour saisir l'idée et s'en pénétrer, on doit d'abord lire tout bas, de même, après avoir assez longtemps lu tout haut, on doit revenir à la lecture intime, pour retrouver devant soi l'homme qui pense. Le poète, comme aussi le grand prosateur, ne livre pas du même coup tous ces genres de beauté, et ne peut pas donner à la fois tous les plaisirs qu'il est capable de donner. Il en faut user avec lui comme avec un peintre, dont tantôt on étudie la composition, tantôt le dessin, tantôt la couleur, tantôt les figures et physionomies humaines, tantôt les eaux et tantôt le ciel. L'impression d'ensemble se fera plus tard de tous ces éléments d'impression fondus ensemble. Un grand plaisir, difficile pour la plupart, et pour moi du moins, avec les prosateurs, très facile avec les poètes, est non plus de lire, mais de réciter de mémoire les morceaux qui se sont fixés dans notre esprit et que nous chérissons de dilection particulière. Il est rare que je me promène sans me réciter à moi-même quelqu'une des pièces suivantes. Marquise, si mon visage, les deux pigeons, ô mon souverain roi, me voici donc tremblante. Si vous voulez que j'aime encore, la jeune captive, le lac, la tristesse d'Olympio, le souvenir, plus souvent la vigne et la maison, la voie lactée de Sully Prudhomme, l'agonie du même. Dans cette récitation solitaire, il arrive de petites choses, assez notables. On scande autrement. Je ne sais pas trop pourquoi, à vrai dire, mais peut-être parce que le papier et l'impression d'un volume du XVIIe siècle suggèrent de couper l'alexandrin à l'hémistiche. Je ne lis jamais la prière d'Esther sans scander ainsi « Ô mon souverain roi, me voici donc tremblante et seule devant toi ». Et quand je me récite à moi-même ces vers, je ne manque jamais de scander « Me voici donc, tremblante et seule, devant toi », la seule manière de scander du reste qui est le sens commun. Quand je lis, malgré la virgule qui devrait me crever les yeux, je scande, ou au moins j'ai tendance à scander « Toujours punir, toujours, trembler dans vos projets ». Et quand je me récite à moi-même, je ne manque pas de scander « Toujours punir, toujours trembler dans vos projets ». Et je ne vais pas sans doute en lisant jusqu'à scander comme j'ai entendu un acteur de la Comédie française le faire, passer des jours entiers et des nuits à cheval. Mais j'ai bien quelque tendance à en user ainsi, et quand je me récite à moi-même, je scande « Passer des jours entiers et des nuits à cheval ». Quand on se récite des vers, on les possède plus intimement, en quelque sorte. On les couve en soi. Il vous semble qu'on les fasse, et on les fait selon le rythme vrai qu'ils doivent avoir, que la pensée qu'ils expriment doit leur donner. Cette manière d'incubation a donc non seulement ses plaisirs, mais ses avantages. Il arrive aussi, et cela est moins heureux, que l'on altère le texte. Je me suis longtemps cité à moi-même le vers de Voltaire ainsi. Il est deux morts, je le vois bien. Le texte est « On meurt deux fois, je le vois bien », qui, au moins, comme euphonie, est très préférable. Je me suis longtemps cité le vers de Ruy Blas, ainsi « Je donne des conseils aux ouvriers du nonce ». Le texte est « Je donne des avis », qui est le mot propre. De même, dans le « Jean Sévère » de Victor Hugo, un discours de cette espèce, sortant de mon hiatus, prouve que la langue épaisse ne rend pas l'esprit obtus. Le texte est « ne fait pas l'esprit obtus », qui est le mot nécessaire. Je dois confesser, à ma honte, que, toutes les fois que j'ai constaté une altération de texte faite par moi, j'ai dû reconnaître que le texte de l'auteur était beaucoup meilleur que le mien. Mais ceci même est une comparaison très instructive et très utile pour l'étudiant en littérature. Pour un seul texte, je ne le dis qu'en rougissant et en permettant, du reste, qu'on se moque de moi, je ne puis pas me décider à croire que je n'ai pas raison contre l'auteur. Je me suis toujours récité à moi-même la fin du Semeur de la façon suivante. L'ombre, où se mêle une lueur, semble élargir jusqu'aux étoiles le geste auguste du Semeur. C'est le « sublustri noctis in umbra » que j'avais dans l'esprit, qui me faisait altérer ainsi le vers de Victor Hugo. Le texte est « l'ombre où se mêle une rumeur ». Je ne puis pas le préférer. Il n'y a pas de rumeur à ce moment crépusculaire, et il est indifférent pour l'effet à produire qu'il y en ait une ou qu'il n'y en ait pas. Et c'est à ce « reste de jour » mêlé à l'ombre que l'auteur et le lecteur doivent penser. Pour bien voir le geste du Semeur élargi jusqu'au ciel. Je penche à croire que Victor Hugo a mis « rumeur » par horreur de la rime pauvre. Quoi qu'il en soit, ses corrections de soi-même, et même ses corrections de l'auteur, quelque irrespectueuses et quelque aventureuses qu'elles soient, aiguisent le goût, tout au moins vous renseignent, ce qui n'est pas sans profit, sur celui que vous avez. Il est un autre exercice, tout voisin de celui-ci, qui consiste à aviser dans un poète médiocre, intéressant pourtant, une pièce qui ne vous déplaît pas, mais qui ne satisfait pas entièrement votre goût, que l'on approuverait, tournée d'autre façon, comme dit Boileau, et de la refaire en promenade ou dans une insomnie, par exemple en la resserrant, ne jamais faire l'inverse, en mettant en stances de vers octosyllabes des stances de vers alexandrins. C'est amusant, et l'on compare après, et c'est amusant encore, mais nous sortons un peu de l'art de lire proprement dit.
Fin de la section 5. Section 6 de L'art de lire par Émile Faguet. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Jehan.
Chapitre 6. Les écrivains obscurs. Il y a une catégorie d'auteurs qu'au point de vue de l'art de lire, il faut considérer très attentivement. Ce sont, comme on les a appelés, les auteurs difficiles, c'est-à-dire ceux qu'on ne comprend pas du premier regard, ni même du second, les Lycophron, les Maurice, Sève, les Mallarmé. Ces auteurs jouissent toujours d'une très grande réputation. Ils ont un banc et un arrière-banc d'admirateurs. Le banc est composé de ceux qui prétendent les entendre, l'arrière-banc de ceux qui n'osent pas dire qu'ils ne les comprennent pas et qui, sans les lire, déclarent qu'ils sont exquis. Ceux du premier banc sont tout à fait fanatiques. Leur admiration est en fait de l'admiration qu'ils ont pour leur intelligence et du mépris qu'ils font de l'inintelligence d'autrui. Ce sont des initiés. Ils ont toute la morgue et toute l'intransigeance des initiés au mystère. Remarquez qu'ils n'ont pas absolument tort. Ils partent de ce principe que tout texte qui est compris du premier coup par n'importe qui n'est pas de la littérature. Et ce principe n'est point tout à fait faux. Peut-être compris du premier coup par n'importe qui, un trait de sentiment qui parfois du reste est fort beau. « Je t'aimais inconstant, qu'aurais-je fait fidèle ?» est une fort belle chose et peut-être entendue par le premier venu. Et qu'il soit entendu du premier venu n'est point du tout une raison pour le trouver vulgaire et le folklore de la littérature. Mais il est très vrai aussi que tout texte, où il y a de la pensée, ne peut être qu'un lieu commun s'il est compris de prime abord. Vous n'avez pas compris du premier coup la mise en liberté de Victor Hugo, et je ne songe qu'à vous en féliciter. Il y a donc quelque chose de juste dans le principe des amateurs d'auteurs difficiles, mais ils l'exagèrent. Premièrement, en excluant ainsi de la littérature toute sensibilité, ou tout au moins toute sensibilité générale, et en admettant que des sentiments rares, très difficiles à pénétrer, c'est-à-dire à ressentir. Secondement, même quand il s'agit de penser, en voulant que rien de la pensée ne soit compris du premier coup. La pensée doit se présenter, et c'est sa façon d'attirer à elle, de manière à être entendue du premier abord en son ensemble, de manière à être apparemment et même partiellement accessible. Il faut ensuite qu'à la reprendre, on s'aperçoive qu'on ne l'avait pas entièrement entendue, et qu'elle est digne d'être creusée, et qu'on la creuse en effet, et qu'on la trouve toujours plus riche. Et s'il se peut, il faut enfin qu'elle soit, pour ainsi dire, inépuisable. Et la pensée qu'on aura, pour ainsi parler, vidée du premier coup, n'est assurément qu'un lieu commun. Mais il est très important qu'une pensée originale soit d'abord accessible et comme hospitalière, ensuite se révèle comme digne d'un examen prolongé et l'exigeant. Mais c'est ce que les amateurs d'auteurs difficiles n'admettent point. Ils veulent que la pensée se garde tout d'abord du lecteur profane par l'obscurité, pour attirer par elle les raffinés, les divinateurs, ceux qui sont intelligents d'une façon exquise. Ils veulent que la pensée fasse le vide autour d'elle pour avoir le plaisir, eux, de franchir la zone déserte, d'entrer dans le sanctuaire, d'y séjourner, et surtout d'en sortir en déclarant qu'ils ont compris, mais qu'il s'en faut que tout le monde en puisse autant faire. Et c'est ceci qui est exagéré, et qui est une manie intellectuelle. Je vois tel auteur, de qui, en m'appliquant, je ne comprends littéralement pas une ligne, et que jeunes gens, femmes, enfants, comprennent parfaitement, jusqu'à assurer que tout ce qu'il dit les étonne si peu qu'il l'avait pensé avant lui. Je me récuse et dis que je ne comprends pas, malgré un grand désir et un grand zèle. On me répond, des yeux du moins et de la mine, car nous sommes un peuple poli. Oh, quand il sera clair de manière que vous l'entendiez. La joie pour certains, et même pour beaucoup, est d'abord de comprendre, mais surtout de comprendre ce que le vulgaire ne comprend pas. Il y a du ragoût. Ainsi se forment, autour de certains auteurs, des élites qui se savent gré de le pénétrer et lui savent gré d'être impénétrables. Elles sont composées, il me semble ainsi quand j'y songe, de plusieurs éléments divers. Il y a ceux qui ne comprennent pas, qui savent qu'ils ne comprennent pas, et qui font semblant de comprendre et d'admirer. Ce sont les faux dévots de ce culte. Ils en usent ainsi par calcul de vanité et pour se faire prendre par la foule pour des intelligences supérieures. Il y a ceux qui vraiment comprennent quelque chose, assez peu, mais vraiment quelque chose. Comment font-ils ? Dans ce qui n'a pas de sens, ce sont eux qui en mettent un. Dans ce qui ne contient aucune pensée, ce sont eux qui mettent une pensée ou quelque chose d'analogue qui est à eux. Ceux-ci ont précisément besoin de textes obscurs pour y évoluer à l'aise et, pour ainsi parler, de textes creux pour y verser leurs pensées propres. Un texte clair les arrête, les limite, les fixe devant lui et ne leur permet que de le comprendre, et non pas eux. Descartes exige qu'on le comprenne et ne permet pas qu'on l'imagine. Un texte obscur se prête à toutes les interprétations, c'est-à-dire à toutes les imaginations dont il sera non la source, mais le prétexte. Un texte obscur est un vêtement où quiconque peut se couler et, s'y étant introduit, admirer ou goûter la figure qu'il y fait. Un texte obscur est un miroir brouillé où chacun contemple le visage qu'il rêve d'avoir. Il y a donc des gens qui comprennent quelque chose dans les textes inintelligibles, à savoir ce qu'ils y ont mis, et qui ont besoin de textes inintelligibles pour n'être point passifs dans une lecture, pour ne pas subir, pour n'être pas réduits au rôle d'adhérents, et pour n'adhérer plus ou moins consciemment, plus ou moins inconsciemment qu'à eux-mêmes. Et enfin il y a ceux, très sincères et très désintéressés, les vrais dévots de ce culte-ci, assez nombreux encore, qui ne peuvent admirer que ce qu'ils ne comprennent pas. Ils existent. Il y en a même plus qu'on ne croit. C'est une disposition d'esprit, c'est l'attrait du mystère, c'est la curiosité du caché, c'est l'attraction de l'abîme, c'est un vertige doux, c'est le prestige exercé sur nous par ce qui nous dépasse, échappe à nos prises, nous défie. Par jeu, je disais dans ma jeunesse, je n'admire que ce que je ne comprends pas, que ce que je me sens incapable de comprendre. Et il me semble que c'est tout naturel. Ce que je comprends, il me semble que moins le style, moins un certain tour de main que je n'ai pas, je le ferai. Donc, je ne l'admire pas, je l'approuve. Je ne l'admire pas, je le reconnais. Il ne m'éblouit pas, il augmente en moi une lumière que j'avais déjà. Ce que je ne comprends pas me dépasse et par conséquent m'impose. Il m'intimide, il me fait un peu peur, je l'admire. Il y a dans toute admiration un peu de terreur. Je me dis à quelle hauteur ou à quelle profondeur faut-il que soit cet homme pour que je ne le distingue plus. Et je sens que, quelque effort que je fasse, il sera toujours à cette hauteur ou à cette profondeur, à cette distance de moi. J'admire, je suis éperdu, je suis au moins inquiet d'admiration. Ce que je disais par amusement, il en est qui ne le disent point, mais qui sont très réellement et très exactement dans l'état d'esprit que je viens de décrire. Ceux-ci ont besoin de textes obscurs pour satisfaire un besoin d'admiration, qui est un besoin d'inquiétude. Ils sont dans un état d'âme très connu, celui des amateurs de sciences occultes. Il n'y a dans leur cas rien d'étonnant. Mais nous, gens du commun, et qui ne prétendons qu'à nous instruire, et surtout à jouir de nos lectures, devons nous lire les auteurs difficiles, c'est-à-dire les auteurs auxquels, à une première lecture, nous prévoyons que nous n'entendrons jamais rien. Mon Dieu, oui, d'abord parce qu'il y a une certaine paresse intellectuelle qu'il est bon de vaincre, de heurter contre de très grandes difficultés, contre de redoutables obstacles, pour qu'elles n'augmentent point et pour que, en augmentant, elles ne vous mènent très bas. Vous vous habituerez, transportons-nous à une autre époque, pour ne blesser personne. Vous vous habituerez à lire Delille, qui assurément n'offre aucune difficulté. Vous en viendrez peu à peu, fuyant l'effort et le redoutant, à ne lire que les romans de Madame Cottin, et vous ne pourrez jamais aborder le second Faust, ce qui vraiment sera dommage. Il faut donc s'exercer les dents sur les auteurs difficiles. À ne pas le faire, on risque d'échéance. J'ai connu dans ma jeunesse des hommes lettrés qui déclaraient le second Faust inintelligible et qui trouvaient Victor Hugo obscur. Pour trouver Victor Hugo obscur, de quel Béranger, et même de quel sous-Béranger, faut-il s'être exclusivement nourri? Mais comment lire les auteurs difficiles? Tous ne sont pas lisibles par des gens comme nous. Il en est qui ne le sont que par des gens appartenant à l'une des trois catégories que j'indiquais plus haut. Il en est qui sont obscurs naturellement, spontanément, très loyalement, sans artifice, qui sont capables, ce qui est une chose encore que je n'ai jamais comprise, d'exprimer par des mots, de mettre sur le papier, une pensée qui n'est pas devenue nette dans leur esprit, pour qui la parole ou l'écriture n'est pas un instrument d'analyse. Pour qui la parole ou l'écriture n'est pas une épreuve qui force à se rendre compte de ce qu'on pense, qui, en un mot, peuvent exprimer ce qu'ils ne conçoivent pas. Ceci, sans doute, il faut les laisser sur le verre, et je ne vois guère quel profit l'on en pourrait tirer, car de penser, à propos d'eux, ce qu'ils n'ont point pensé, et ce qu'ils auraient pu penser s'ils avaient pensé quelque chose, cela est un peu vain et si hasardeux qu'il vaut mieux penser directement pour son compte. Mais il en est, et ce sont, je crois, les plus nombreux, qui sont obscurs volontairement et de propos faits pour s'acquérir la gloire délicate et précieuse d'auteurs obscurs. Et voici comment ils ont procédé. Ils ont pensé en clair, d'abord, comme tout le monde, puis, par des substitutions patientes de mots impropres aux mots justes, de tournures bizarres aux tours simples, d'inversions aux tours directes, ils ont obscurci progressivement leurs textes. Ils ont fait exactement l'inverse de ce que font les auteurs qui n'écrivent que pour être entendus. Ceux-ci ramènent progressivement l'expression vague à l'expression précise. Eux détournent laborieusement l'expression à peu près précise vers l'expression sibylline. Sachant pour qui ils écrivent, ils disent, le mot assure-t-on, est authentique, « Mon livre est fait, je n'ai plus qu'à l'enténébrer un peu ». Nietzsche disait « Enfin, nous devenons clairs ». Ils disent, en remaniant leur œuvre, « Enfin, je deviens obscur ». Ils se défendent, par l'obscurité, d'être compris de ceux par qui ce leur serait une honte d'être entendus. Nietzsche a très bien saisi leurs procédés et leurs intentions. On veut, non seulement, être compris quand on écrit, mais encore certainement n'être pas compris. Ce n'est nullement une objection contre un livre, quand il y a quelqu'un qui le trouve incompréhensible. Peut-être cela faisait-il partie du dessein de l'auteur, de ne pas être entendu de n'importe qui. Tout esprit distingué, qui a un goût distingué, choisit ainsi ses auditeurs lorsqu'il veut se communiquer. En les choisissant, il se gare contre les autres. Toutes les règles subtiles d'un style ont là leur origine. En même temps, elles éloignent, elles créent la distance, elles défendent l'entrée. En même temps, elles ouvrent les oreilles de ceux qui nous sont parents par l'oreille. À la vérité, ce travail de proté des auteurs difficiles, ce « noli me tangere, noli me intelligere » est assez vain, puisqu'ils seront compris, adoptés, du moins touché par ceux précisément en majorité par qui ils redoutent d'être entendus et dont ils craignent le contact, c'est-à-dire par les sots. Et ce sont ceux qui comprennent peu qui courent tout droit aux choses les plus difficiles à comprendre. Mais enfin, tel est leur travail. Ils se voilent, ils se masquent, ils se déguisent jusqu'au moment où ils se jugent impénétrables. Or, ce travail qu'ils ont fait, faites-le à l'inverse et ramenez-les patiemment à la simplicité. Invertissez les inversions, tournez les termes impropres aux termes probablement justes, d'après le sens général du morceau, s'il en a un. Par une lecture attentive, pénétrez-vous de ce que l'auteur a sans doute voulu dire, et, ainsi éclairé, si la chose est possible, saisissez les petits procédés par lesquels il a dérobé son idée au regard et détruisez-les à mesure, jusqu'à ce que vous soyez en présence de l'idée elle-même, laquelle vous paraîtra souvent très ordinaire, mais quelquefois intéressante encore. Vous voulez, à six, me dire qu'il fait froid ? Dites, il fait froid ! Eh bien, précisément, par une sorte de filtrage et de décantation, contraignez Assis à dire « il fait froid ». Ce travail est très utile, c'est un des exercices les plus vigoureux de l'intelligence et qui l'accroît et l'aiguise. Montaigne a une page admirable sur l'art de compliquer ce qui est simple et d'obscurcir ce qui est clair. Il n'est pronostiqueur s'il a cette autorité qu'on daigne feuilleter et rechercher curieusement tous les plis et lustres, entre parenthèses, détours, point d'interrogation, de ses paroles, à qui on ne fasse dire tout ce que l'on voudra, comme aux Sibylles. Il y a tant de moyens d'interprétation qu'il est malaisé que, de biais ou de droit fil, un esprit ingénieux ne rencontre en tout sujet quelque avis qui lui serve à son point, entre parenthèses, à son point de vue. Pourtant, entre parenthèses, et c'est pourquoi, se trouve un style nubileux et douteux, en si fréquent et ancien usage. Que l'auteur puisse gagner cela d'attirer et embesogner à soi la postérité, ce que non seulement la suffisance, entre parenthèses, la capacité, mais autant ou plus la faveur fortuite de la matière peut gagner, qu'au demeurant, il se présente, par bêtise ou par finesse, un peu obscurément et diversement, ne lui chaille. Nombre d'esprits, le blutant et secouant, en exprimeront quantité de formes, ou selon, ou à côté, ou au contraire de la sienne, qui lui feront tout honneur. Et il se verra enrichi des moyens de ses disciples, comme les régents du Landy. C'est ce qui fait valoir plusieurs choses de néant, qui a mis en crédit plusieurs écrits, et les a chargés de toutes sortes de matières qu'on a voulu. Une même chose recevant mille et mille et autant qu'il nous plaît d'images et considérations diverses. Or bien, c'est juste le travail contraire qu'il convient que vous fassiez sur les auteurs difficiles. Ils se sont couverts d'ajustements compliqués et de harnois enchevêtrés. Il faut les mettre en chemise. Il faut les forcer d'être simples à leur corps défendant et les juger et peut-être les approuver et les goûter ainsi devenus. Mais de même qu'en lisant un auteur simple, on prend assez facilement l'habitude, par la lecture méditée, d'y mettre beaucoup de choses qu'il n'a point pensées ou qu'il n'a pensées qu'en puissance. Tout de même, en simplifiant les auteurs compliqués, ne leur fait-on pas le tort de leur ôter leur seul mérite? Il est assez vrai, mais leur punition méritée est sans doute qu'on les dépouille, au lieu de les enrichir. Eux qui veulent paraître plus riches qu'ils ne sont, et qui donnent les apparences de la richesse à leur pauvreté, et qu'on jette de la lumière dans l'appartement volontairement obscur où ils nous reçoivent, pour voir l'ameublement un peu usé sur lesquels ils voulaient faire illusion. En tout cas, l'exercice, s'il est fatigant, est très sain et très utile. C'est une traduction d'un langage chiffré. Il s'agit de trouver le chiffre. Tant qu'on le cherche, c'est une bataille. Quand on l'a trouvé, c'est une victoire. Il ne faut point passer sa vie à chercher des chiffres et à déchiffrer. Mais de temps à autre, c'est une chose qui n'est ni sans plaisir ni sans profit.
Fin de la section 6.
At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only $10 every day. Now that's finger-lickin' good.
Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax tip and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.